D'abord, un grand merci pour l'accueil. C'est vraiment une joie. Chaque fois qu'on vient ici, on est gâté, on est aimé, on est accueilli, on est béni, on est édifié. Et merci vraiment pour chacun d'entre vous. Pour Horacio et Marion aussi, qui ont à peine installé, qui nous ont déjà accueillis chez eux. Et très content aussi d'avoir Nicolas, un frère depuis de longues années avec nous, et Jonathan, qu'on découvre depuis quelques mois à l'église de Nîmes. Donc merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, c'est un plaisir d'être avec vous aussi. Donc voilà. Seigneur, merci de ce qu'on a déjà entendu, merci pour ta présence ce matin, merci pour cette église de Genève, pour chaque frère et sœur, et je te prie que tu mettes dans nos cœurs, Seigneur, cette parole si précieuse, de vérité et de grâce et d'amour, qui restaure, qui nous édifie, qui nous conduit, qui nous permet de voir avec tes yeux, de voir par la foi ce que tu as préparé pour nous et de rentrer dans ce que tu as préparé pour nous. Et je te demande de fortifier cette assemblée que je te recommande. Et je te remercie pour ce que tu as déjà fait depuis toutes ces années, ce que tu continues de faire. Merci pour Pasteur Tony, pour un pasteur selon ton cœur que tu as conduit ici, Seigneur. Et merci de continuer de les faire grandir en toi et de rajouter. Seigneur, c'est notre prière. Dans ce monde, rajoute des frères et des sœurs et des frères, s'il te plaît, de ceux qui ont soif et faim de vérité, de justice, d'espérance, de ta présence, Seigneur. Rajoute dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, il y a tellement de choses, mais on va commencer dans un verset dans l'évangile de Jean que j'aime beaucoup, Jean chapitre 6, je vais vous lire trois versets, et on va être dans le livre de Thessaloniciens, parler de trois choses importantes dans la vie du croyant, et ça commence en Jean chapitre 6, verset 29. Verset 27, il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Et on va parler de trois vertus qui sont mentionnées dans le livre de Thessaloniciens. Et ces trois vertus, c'est dans les premiers versets, dans l'introduction de ce livre, elles sont mentionnées au verset 3, où on commence au verset 2. Nous rendons continuellement, donc c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. En notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et j'aimerais parler de la foi, de l'espérance et de l'amour parce que, en fait, c'est les thèmes qu'il va développer tout au long de son épître. Et j'aimerais qu'on s'arrête en particulier sur le chapitre 5. Mais au verset 3, il va parler de la foi. Il dit au verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, du chapitre 3, hein, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. » Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Et comment va ta foi? Comment va votre foi? C'était la crainte de Paul, c'était lors de son voyage missionnaire, ils étaient allés à Thessalonique, le deuxième voyage missionnaire, ils avaient implanté cette église, et voilà, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils étaient devenus, parce qu'il y avait des oppositions, il y avait des souffrances, il y avait des persécutions. Hein, au verset 3, est-ce que ça les a ébranlés face aux difficultés? Parce que c'est réjouissant, on disait, de rencontrer le Seigneur, de se convertir, de voir l'amour de Dieu. Mais comment on fait après quand on se rend compte que le monde autour de nous n'est pas parfait, l'Église n'est pas parfaite, le pasteur n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Comment on fait? Est-ce qu'on continue de croire Ou est-ce qu'on se dit, c'était juste, on a rêvé un mirage? Ou est-ce qu'on dit, non, Seigneur, il est en train de, il est le berger, le grand berger, il a commencé quelque chose, et oui, ça se fait avec des hauts et des bas, mais je vais continuer de croire que Jésus-Christ, il est celui qui est, il est le bon berger, il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est celui qui est mort pour moi, qui est ressuscité, qui est vivant. Et puis après, ils envoient Timothée pour savoir, et Timothée, au verset 6, il dit, et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Waouh ! Timothée va, et là, ils sont encouragés. Et puis après, il dit, verset 7, en conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Vous voulez faire du bien à vos frères et sœurs, à l'Église, au corps de Christ ? Vous voulez les encourager ? Vous voulez encourager votre pasteur ? Vous voulez encourager votre épouse ? Vous voulez encourager vos enfants ? Vous voulez encourager vos frères et sœurs ? Ben, on continue dans la foi. On continue de croire. On continue de croire, même si des fois ça ne nous convient pas toujours. Et ça ne conviendra jamais à notre chair, qui veut trouver une forme de confort. D'accord ? Notre foi, le fait de persévérer dans la foi, de continuer dans la foi, c'est une source d'encouragement et de consolation. C'est même une source de joie au verset 9, hein, c'est la joie. Ils ont éprouvé, il va avoir de la joie, Paul, à savoir qu'il continue dans la foi. Et puis après, il voulait aller les voir et il prie pour ça nuit et jour, pour venir continuer d'apporter ce qui manquerait à leur foi. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé encore. On a besoin d'encore être encouragé, encore de grandir dans la foi, encore de persévérer toujours dans la foi que le Seigneur nous a suscité en nous et veut mener à la perfection, dans Hébreux chapitre 12 et verset 2. Et puis cette foi, elle va produire quelque chose. Elle va produire l'amour. L'amour. Et c'est ça l'objectif de Dieu, c'est l'amour. Qu'on connaisse son amour et qu'on partage son amour et qu'on vive son amour. Et c'est pour ça qu'un des points importants que j'aimerais partager aussi avec vous ce matin, c'est qu'il n'y a pas d'amour véritable sans le corps de Christ. Il n'y a pas d'expérience et de croissance dans l'amour de Dieu, ce à quoi Dieu nous appelle, pour notre bien, mais aussi le bien des autres, si on n'est pas dans le corps de Christ. Si on est indépendant du corps de Christ, si on est à côté du corps de Christ. Et on peut, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous pouvez justifier comme vous voulez. Le corps de Christ est vraiment une source de bénédiction, de protection, de couverture. C'est le lieu, c'est la famille qui va nous sauver de nous-mêmes, de notre individualisme qui aujourd'hui ruine la plupart de la vie des gens sur cette terre. On a besoin du corps de Christ pour sauver nos âmes. On est sauvés, mais sauver nos âmes d'une vie centrée juste sur soi. On a besoin de voir plus grand. Le centre, c'est pas, vous n'êtes pas le centre du monde. Christ est le centre. Et si Christ est le centre de votre vie, vous êtes au centre. C'est la destinée de l'Église, l'épouse de Christ. Le centre, au centre de la Trinité. D'accord ? Mais ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. D'accord ? Et c'est moi en Christ. Donc c'est là le centre. Donc au verset 4, il leur dit ceci, au verset 1, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Oh, Seigneur a fait des belles choses. La présence de Dieu dans l'adoration, dans le partage de Pasteur Tony, c'est extraordinaire, la présence, la communion du Saint-Esprit ici. L'onction qui est au milieu de nous ce matin. Mais elle est là pour qu'on continue. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas arrivé. On est en train de grandir toujours plus dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de l'amour de Dieu, dans l'expérience de son amour. C'est de progrès en progrès. L'amour que Dieu a pour nous, l'amour qu'on partage, l'amour qu'on expérimente ensemble, ça doit être de progrès en progrès. Et un peu plus loin, il va dire, et c'est le témoignage que j'aimerais vous faire à propos de l'église de Genève, Pour ce qui est de l'amour fraternel, verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous vivez. Et Seigneur, que ça grandisse encore plus. Qu'on puisse... Il y a tellement de gens qui ont besoin aujourd'hui de rencontrer l'amour de Dieu. Il y a tellement de gens qui ont besoin et ils sont pris dans un système de pensée, d'aveuglement, de séduction. C'est pour ça que nous croyons que le diable n'est pas lié encore et qu'on n'est pas dans le millénium parce qu'il est à l'œuvre et il aveugle les gens, leur faisant courir après des choses qui semblent être bonnes pour eux, mais qui sont leur perte. On pense qu'on a besoin de plus de ceci, d'une plus grande voiture, d'une plus grande maison, d'une autre femme. Ce monde court après ça. C'est le vide qui veut être rempli par les convoitises du cœur. Mais à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est la solitude. C'est se retrouver seul avec peut-être... Vous imaginez, vous êtes seul, vous êtes millionnaire et vous n'avez personne que vous aimez et il n'y a personne qui vous aime. Waouh! Et tu penses que ça, c'est le bonheur? Peut-être qu'on ne sera jamais millionnaire, mais on a le vrai trésor. On a le vrai trésor. On a la présence de Dieu. On a la parole de Dieu, la parole de vérité. Hein, Proverbe chapitre 3, versets 13 à 15. C'est plus précieux que tout l'or du monde, plus précieux que l'argent, plus précieux que tout. La sagesse, la parole, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on a parlé de l'amour, de la foi, et Paul va parler de l'espérance, de notre espérance, à la fin du chapitre 4, de ce que nous attendons, c'est que le Seigneur vienne chercher son Église, qu'on soit enlevé avec lui dans le ciel. Les noces de l'agneau, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui est prévu pour nous. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces choses-là, c'est ce que Pierre va dire aussi, Dans sa deuxième épître et premier chapitre de Pierre, il dit que si ces choses sont en vous, il parle notamment, il commence par la foi et il finit par la fraternité, l'amour fraternel et l'amour agapé. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs pour les choses de Dieu parce qu'on est devenu participants. Et c'est le point que je veux essayer de vous communiquer, c'est que les œuvres que Dieu a préparées et dans lesquelles Dieu nous invite, on va pouvoir les vivre seulement et seulement si on continue dans la foi. Seulement et seulement si on travaille dans l'amour. On ne travaille pas pour mériter, pour gagner, pour une gloire éphémère, terrestre. C'est l'amour de Dieu en nous qui œuvre, qui nous permet de nous aimer nous-mêmes, de nous accepter dans la grâce, dans l'œuvre accomplie, et d'aimer les autres, et de porter les autres. Et bien sûr, on a cette espérance ferme. Parce que si on n'a pas cette espérance, face aux difficultés, face aux montagnes, face aux problèmes internes, externes, aux doutes intérieurs, aux luttes extérieures, si on n'a pas cette ferme espérance que Dieu s'est engagé avec nous et qu'il est en train de nous conduire pour être avec lui dans le ciel, hein, qu'il va venir nous chercher, qu'il ne nous abandonnera pas, que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Alors notre foi peut défaillir et notre amour peut s'étioler peut-être et se renfermer sur soi-même. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Mais nous, on veut ouvrir, on veut s'ouvrir à l'amour de Dieu et aux autres. Et on veut continuer dans cette foi. Donc, au chapitre 5, et on va le lire tout simplement et faire quelques commentaires. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Mais vous, frères, vous n'êtes point des ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous savez, il y en a un qui voudrait qu'on manque de vigilance, qu'on pense que voilà, le Seigneur, et qu'on ne veille pas, et qu'on soit distrait, qu'on soit occupé, qu'on ne soit pas vigilant à ce que on est dans une bataille aujourd'hui, une bataille pour garder la foi, pour continuer dans la foi, pour garder l'amour, pour vivre l'amour de Dieu, pour persévérer dans l'espérance qui est la nôtre. Et donc, veiller, c'est ici, le mot veut dire de porter une attention stricte, active. Notre foi n'est pas passive. On n'est pas juste à subir les événements de la vie. On veille, on est attentif à ce qui se passe autour de nous. On est attentif à ce que se passe dans le corps de Christ. On est attentif à ce que Dieu dit à travers la prédication de sa parole. On n'est pas juste là, voilà, on attend que ça se passe et puis on se laisse. Vous savez, le monde, la Bible dit qu'ils sont emportés à tout vent de doctrine, hein, en Éphésiens chapitre 4. Comment c'est dit exactement, Éphésiens chapitre 4 ? Ballottés à tout vent de doctrine. D'accord, les gens, voilà, c'est bon, on va par là, ou on va par là, ou on va par là, on verra bien de toute façon. On ne sait pas où on va, il n'y a pas de but, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'objectif. Nous, on a un objectif, c'est Christ. C'est connaître Christ, c'est avancer avec Christ, c'est marcher avec Christ. C'est découvrir l'amour de Dieu, partager l'amour de Dieu, vivre l'amour de Dieu. Et donc de veiller, de demeurer ferme. 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Et les hommes, soyez des hommes. Pas des Géraldines, des hommes. D'accord ? Fortifiez-vous, ça veut dire que quelque part on est actif, on n'est pas passif, on reçoit la parole. Comment elle vient la foi ? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment est-ce que la foi, continuer dans la foi, c'est le vrai trésor, ça, n'est-ce pas ? Continuer de croire Dieu, dans les hauts, dans les bas. Parce que quand tout va bien, c'est facile de croire Dieu. Mais quand ça va moins bien, quand c'est difficile, quand on a peut-être des luttes ou des difficultés avec un frère, une sœur, avec certaines choses qu'on ne comprend pas dans la parole de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans nos vies, des circonstances qu'il permet, des difficultés, des l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or périssable, dans 1 Pierre chapitre 1. Mais elle est précieuse, la foi, la connaissance de Dieu, l'obéissance à Dieu. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. On ne peut pas être neutre. Je sais que vous êtes suisse, mais on ne peut pas être neutre. On doit prendre position, on doit veiller, on doit être attentif. On ne doit pas laisser l'indolence, on ne doit pas laisser les choses, on ne doit pas subir simplement. On a une foi active, on croit à Dieu. Oui, il y a une réalité, on ne vit pas dans le déni, mais on élève Jésus-Christ au-dessus de notre réalité. Et on dit, Dieu a un plan. Oui, peut-être qu'il y a une épreuve, oui, peut-être qu'il y a une souffrance, oui, peut-être qu'il y a une déception. Si vous n'avez pas encore été déçu, c'est que vous allez bientôt l'être. Des hommes et de vous-même. Soyez honnêtes, soyons honnêtes. D'accord ? Et c'est quelque chose de difficile de veiller. Vous rappelez l'histoire de Jésus avec ses disciples à Gethsémané ? Et en Matthieu 26, 40 et 41, il dit « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » C'est le même mot. Je vais vous dire, on a besoin de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu qui nous aide à veiller, à être attentif à ce que Dieu est en train de dire, au pas qu'on prend. On ne se rend pas trop compte, vous savez, c'est comme les sables mouvants, les situations et les détails de la vie. Tu avances et puis tu ne fais pas trop attention, tu ne veilles pas, tu ne prends pas soin peut-être de ton âme, de ton emploi du temps, puis tout d'un coup tu te retrouves enlisé avec des tas de choses qui commencent à te faire enfoncer, à te faire perdre ta joie, à te faire perdre la communion, à éteindre l'esprit. C'est un des sujets dans ce chapitre 5. Donc de veiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici il est dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous ne remarquez pas une chose intéressante ? Il n'est pas en train de dire veille et sois sobre. C'est veillons et soyons sobres. Vous pensez qu'on peut faire ça tout seul? Vous pensez qu'on n'a pas besoin des uns des autres? Quand notre foi défaille, qui c'est qui va nous porter? C'est les autres. Et quand leur foi défaille, qui c'est qui va les porter? C'est toi. C'est ensemble qu'on peut veiller et être sobre. C'est parce que si d'avoir cette sobriété, c'est intéressant, c'est d'être calme déjà. On sait, on s'affole vite hein, dans nos émotions. D'être concentré en esprit, d'être modéré et de ne pas se laisser emporter par les passions. Aujourd'hui, on disait, dans ce monde qui se dit scientifique, logique, pragmatique, voilà, la plupart des décisions des hommes aujourd'hui sont faites sur les émotions, sur les passions, sur les désirs, sur les convoitises. Ce n'est pas logique. Si tu réfléchis, il n'y a pas de logique à prendre une telle décision. C'est juste, les gens sont emportés. Ils ne sont pas sobres. Hein, ils manquent de concentration. Ils ne sont pas circonspects. C'est ça le problème. Et pour ça, on a besoin les uns des autres de s'édifier ensemble, de vivre quelque chose ensemble. Ça s'adresse au corps de Christ, ça. Ça ne s'adresse pas juste à l'individu. L'individu, mais dans le corps de Christ, il va pouvoir vivre ces choses-là. Peut-être 1 Pierre 1,13. Il est dit, le chapitre 1 aussi, je pense que si vous avez le temps, peut-être aujourd'hui, avant de... Ce soir, vous n'avez pas le culte, donc peut-être vous aurez quelques minutes. Je vous encourage à lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 et en même temps 1 Pierre chapitre 1. Parce que les deux choses vont ensemble. Peut-être que je vais... Ce qui m'a interpellé dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 8, il dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » Et encore, il y a ces trois vertus qui apparaissent, l'amour, la foi, vous croyez en lui, et l'espérance, on se réjouit d'une joie merveilleuse, notre espérance de ce que le Seigneur a commencé, qu'il continue de faire, et de ce qui nous attend, face peut-être à une réalité qui n'est pas toujours facile à accepter. On a toujours une chair, hein, ça c'est la réalité. Et au verset 13, alors qu'il parle de comment les prophètes ont parlé de ce salut par la grâce, et au verset 13 il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre espérance, elle n'est pas en nous-mêmes. Notre espérance, elle est en Christ. Elle est dans la croix de Christ. Elle est dans le sang de Christ. Elle est dans le salut offert. Elle est dans la grâce qui nous a été offerte et qui nous assure cette destinée et qui nous sécurise dans cette destinée. Revenons sur 1 Thessaloniciens 5. Donc, verset 7, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Vous savez, si la nuit, ça parle du monde, des ténèbres. Les gens dans les ténèbres, les gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'amour, qui n'ont pas l'espérance, sont obligés de se remplir de quelque chose. Nous, on n'est pas obligés de se remplir de ces choses-là, de ce que le monde nous fait croire que c'est la panacée. D'accord. Nous, aujourd'hui, on est rempli d'autres choses. On a une espérance. On a une confiance en Dieu. On a l'amour de Dieu. On a la vie qui va avec, dans le corps de Christ, ensemble. Et verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Encore les trois choses apparaissent. La foi, l'amour et l'espérance. La cuirasse, c'est carrément une cuirasse qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'autour de nous, il y a des flèches, il y a des dards enflammés. Il y a le malin qui essaye de nous faire... Ce n'est pas la peine de veiller, ce n'est pas la peine d'être circonspect, ce n'est pas la peine de rester sobre, ce n'est pas la peine de se garder dans le corps de Christ. C'est bien le corps de Christ, mais tu sais, il y a tellement de choses à côté. Hein ? Il y a tellement de choses à côté qui pourraient être bénéfiques pour toi. Et nous, on a besoin d'être sobre, on a besoin de veiller... Pour ne pas laisser le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable, Jean 8, 44, pour ne pas lui laisser l'avantage Parce que vous savez ce qu'il fait, c'est qu'il vient et il sème une petite graine de mensonge. Et si on ne veille pas, si on n'est pas sobre, et qu'on laisse ça, ça met dans notre esprit ce qu'on appelle des fictions directrices. Et ce monde est farci de fictions directrices qui les aide dans les choix qu'ils prennent qui sont émotionnels. C'est inconscient souvent. D'accord ? Plus d'argent, plus de plaisir, plus de vacances, plus de ceci, plus de cela, en pensant que c'est ça dont on a besoin. Mais on a besoin de quoi ? De Christ, de sa parole, ce trésor éternel. C'est de ça dont on a besoin. Et quand on a une foi qui est saine, ce à quoi Dieu nous encourage. Et je crois que c'est dans le corps de Christ que notre foi va pouvoir s'établir. Un conseil très simple, et j'ai entendu ça, c'est dans le cours, pour ceux qui écouteront le cours, c'est pasteur Georges qui disait ça, de pasteur Jean-Luc Maigret. Et il demandait à un jeune croyant qui commençait à venir à l'église, et il demandait qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que comment on fait ? Comment on fait ? Là, pratiquement, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et vous savez ce qu'il lui a dit ? Viens à l'église, assis-toi et écoute. Et choisis par la foi de venir, pas juste une fois, mais aux activités, 3 fois dans la semaine. Juste 3 fois. Il y en avait plus d'activités. 3 fois. Viens le dimanche, viens le mercredi, suis un cours. Juste fais ça pendant une année. Et si tes yeux sont centrés sur toi, sur tes besoins, sur tes problèmes, sur toi, tu vas laisser la parole de Dieu, la semence incorruptible, au lieu du mensonge et ses fictions directrices, c'est la parole de Dieu, avec la puissance de la foi de ceux qui t'entourent dans le corps de Christ, qui vont créer une capacité pour que tu vois différemment et ta vie et les autres, et que tu commences à voir le but, Jésus-Christ, et que tu commences à expérimenter l'amour. C'est pas compliqué. N'essaye pas dans ton coin d'essayer de te changer. Viens juste là où Dieu va te changer. Comme tu disais, c'est lui qui fait l'œuvre, hein, psaume 23. C'est lui qui nous conduit. Hein, c'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous édifie. C'est sa parole dans le corps. Alors, nous qui sommes du Jean 1, verset 16 et verset 8, l'amour, la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Ça, c'est, on n'est pas destiné. Certains pensent, parce que nous attendons que Jésus vienne nous prendre et puis après il y aura la grande tribulation. Certains chrétiens pensent que on sera pris, que Jésus reviendra après la tribulation. Mais si vous lisez dans ce même livre, dans cette même épître, et 1 Thessaloniciens 1:10, il dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » D'accord ? Il nous délivre de la colère à venir, et là, il ne nous a pas destinés à la colère. Parce que pourquoi ? On sera enlevé avant la grande tribulation. Parce qu'on n'a plus besoin d'être jugé. Christ l'a été à notre place sur la croix. D'accord ? Et c'est un jugement contre l'humanité, contre le cœur de l'homme méchant qui va venir sur cette terre, qu'il a rejeté. Pas contre son Église. Donc, aussi, au verset 3, il parle de « ils n'échapperont point », et juste après, il dit « mais vous ». Il y a une différence entre le « il » et le « vous ». C'est qu'ils, ils vont passer dans la grande tribulation, mais vous c'est quoi ? Vous êtes des enfants de la lumière, vous êtes croyants, vous êtes enfants de Dieu, vous ne passerez pas par ça. C'était juste un encouragement pour ça. Alors après, il y a plein de choses qui ne nous laisseront pas oisifs. Parce que qu'est-ce que je vais vivre maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire dans le corps de Christ ? Deux versets intéressants, verset 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous pouvez penser qu'on peut faire ça sans le corps de Christ ? Dans l'œuvre de votre foi ? Dans le travail de votre amour ? Vous pensez qu'on peut faire ça sans les uns les autres ? Non, on a besoin d'être exhorté, d'être averti, d'être encouragé. Nous vous prions, frères, deux versets intéressants. Nous vous prions, frères, versets 12 et 13, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Vous voulez grandir dans votre foi ? Vous voulez grandir dans le travail de votre amour ? Dieu vous a donné un pasteur. Il vous a donné un super pasteur. aimez-le. Soyez près de lui. Acceptez que Dieu l'utilise pour vous, des fois, vous reprendre, vous exhorter, vous encourager, vous édifier, vous aimer. Vous savez, s'il y a de la distance ou s'il y a de l'air entre vous et lui, vous ne recevrez pas la parole dans l'humilité et dans la foi. Vous allez toujours sortir « oui, mais je pense que, il me semble que, je voudrais que... » Des excuses. Et les... Vous luttez. Vous luttez avec celui que Dieu a choisi pour vous aider. Ce n'est pas un surhomme. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être édifié, il a besoin d'être encouragé, comme nous tous. Il n'est pas parfait, il n'est pas au-dessus de nous, le pasteur. Mais il a été un don pour l'Église. Pourquoi ? Pour son édification, pour notre foi, pour votre foi. Ensuite, verset 13, ayez pour verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de patience envers tous. Vous pensez qu'il n'y a pas des choses à faire dans le corps de Christ ? Ben voilà, quatre mots. Avertissez ceux qui vivent, ou exhortez, c'est le même mot, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Quand tu as un frère qui vit peut-être des choses difficiles ou qui ne prend peut-être pas des bonnes décisions, ce n'est pas de venir avec un jugement, frère, j'ai une parole de Dieu pour toi, et boum, tu tapes avec la Bible sur sa tête. Non, c'est de savoir venir l'encourager, l'exhorter, lui parler cœur à cœur, l'aimer simplement. Et vous imaginez quand peut-être on passe un moment difficile et qu'on est prêt à prendre des mauvaises décisions, qu'il y a un frère qui vient à tes côtés, qui vient pour te, pas pour te casser du sucre sur la tête, mais pour t'aimer, pour te prévenir, pour t'encourager, pour te dire « Attends, on va aller ensemble. Ta foi a besoin peut-être d'être encouragée. T'as besoin d'être aimé. Parce que voilà, il y a des luttes, il y a des faiblesses, on est des humains. D'accord ? On peut faire ça. On peut consoler quelqu'un qui a des problèmes de santé, peut-être un deuil, peut-être un travail, plus de travail, peut-être, je ne sais pas, on a besoin de quoi ? D'être consolé. Qui va nous consoler ? Ben, si vous êtes dans le corps de Christ, vous pourrez être consolé. Et si vous êtes dans le corps de Christ, vous pourrez consoler. Parce qu'il y a un moment donné où on vient, on reçoit comme des enfants, on est nourri comme au biberon, et à un moment donné, on n'est plus des enfants. Ce qu'on a reçu, on peut le redonner. Parce que si on est juste là pour prendre, pour prendre, pour prendre, à un moment donné, on va exploser. Hein. Et on arrête. À un moment donné, il y a une transition qui se fait. Ce que j'ai reçu, je le redonne. Les consolations dont j'ai été... Voilà, dont le Seigneur a pris soin de moi avec des frères, avec des sœurs, avec la parole, avec ses promesses. Tout d'un coup, je peux les donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va vous faire grandir. C'est pas en dehors. C'est là que vous allez expérimenter la puissance de la parole de Dieu dans votre vie, qui vous a transformé et qui est le moyen pour votre frère d'être consolé. De supporter les faibles. Pensez pas qu'il y a des gens qui vous supportent. Des fois. Vous n'avez pas du mal à vous supporter, vous, des fois. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais on est après appelé à se supporter les uns les autres. Dans un couple, dans une famille, dans une église, entre frères et sœurs. Et ça demande quoi, ça? Ben, ça demande Dieu. Comme pour la patience après. User de patience envers tous. Est-ce que vous pensez pas que le Seigneur est patient avec vous? En tout cas, avec moi, il est patient, je vous le dis. Est-ce qu'on ne peut pas user de patience avec un frère? Est-ce que ce n'est pas cette patience-là qui va changer son cœur? Qui va lui permettre de connaître l'amour de Dieu, qui va rendre sa foi inébranlable et qui va permettre de saisir que cette espérance, elle est sûre, elle est ferme. Dieu est là, Dieu est à l'œuvre. Donc il y a plein de choses à faire dans le corps de Christ, n'est-ce pas ? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. C'est que maintenant même qu'on a appris à vivre comme ça dans le corps de Christ, on peut même le vivre avec les autres, dans le monde, au travail, avec nos voisins, dans les situations injustes. Avec des injustes, on peut montrer cet amour, on peut montrer cette patience, on peut montrer ce que... C'est pas qu'on est des imbéciles, hein, mais on fait ce que Dieu nous demande de faire, de pardonner même nos ennemis. Je peux vous dire, ça peut changer quelqu'un. Le pardon, la patience, supporter. Et ça, on a besoin de Dieu pour ça. On commence entre nous, et quand on est rempli de ce que ça peut produire dans la vie des uns des autres, et ça a produit dans notre vie, on peut même l'importer pour les autres. Et c'est comme ça que les autres vont venir. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on va connaître qu'on est vraiment disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas la théologie que tu as et tous les versets que tu peux sortir. C'est à cette patience, c'est à cette exhortation, c'est à cette consolation que tu as reçue et que tu peux porter aux autres. Après, il y a quelques... Et on termine, d'accord ? Verset 16. Soyez toujours joyeux. Ça ne vous plairait pas d'avoir une vie toujours joyeuse ? Dans un monde où on est plutôt et naturellement gémissant, plaintif, toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas le gouvernement, c'est mon patron, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est moi-même. Joyeux ! Pourquoi on est joyeux ? Parce qu'on a la foi, parce qu'on a l'amour, parce qu'on a une espérance. C'est ça qu'on élève, c'est la parole, c'est Christ. Priez sans cesse, rempli, hein, n'éteignez pas le Saint-Esprit un peu plus loin. Verset 19, on est rempli du Saint-Esprit. On vit Dieu, on partage Dieu, on respire la vie de Dieu. Donc il y a des choses, je veux dire, qu'est-ce que c'est la vie chrétienne ? La vie chrétienne, c'est de trouver cette vie dans le corps de Christ les uns avec les autres, de trouver votre place dans le corps de Christ et d'apprendre à devenir un serviteur dans le corps de Christ. De dire, « Waouh, mais moi je préférais qu'on me serve dans le corps de Christ. » Oui, il y a des moments où on est servi. Mais à un moment donné, si vous voulez devenir des hommes, des femmes, prenez vos responsabilités, croyez Dieu, recevez son amour, partagez-le, vivez cette ferme espérance. Voilà. Peut-être des fois dans la souffrance. Vous savez, nous on pense que c'est quand tout va bien qu'on brille le plus. J'aimerais vous dire, c'est plutôt quand tout ne va pas bien qu'on brille le plus. Parce que là, les gens disent, mais comment c'est possible ? Ben, c'est parce que là, Dieu a brisé le vase et tout l'extérieur qu'on peut montrer, il n'y a plus rien. Et maintenant, il y a le fond qui se manifeste. Et on voit Christ qui brille. Et c'est ça qui va changer la vie des autres. Et c'est ça le corps de Christ. C'est qu'on n'est pas là avec des façades en disant, oh, moi je suis chrétien, je suis pasteur, j'ai une cravate, je suis beau, j'ai tout réussi. Non, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de l'amour de Dieu, j'ai besoin de grandir dans la foi, d'avancer, de continuer, d'être toujours enthousiaste. Et pas d'être blasé. De voir toujours le corps de Christ comme une bénédiction et pas comme une contrainte. Et de continuer à espérer contre toute espérance. Il n'y en a pas un qui a fait ça ? Le père de notre foi ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on doute et on est face à... Mais on espère. Elle est ferme, notre espérance. Parce que notre Seigneur, il est là. Il est avec nous. Voilà, c'était quelques exhortations. On n'a pas eu le temps de tout finir, mais je vais m'arrêter parce qu'on ne va pas dépasser le temps qui est imparti. Juste vous dire combien vous êtes précieux, chacun d'entre vous. Et juste vous encourager à continuer. Il n'y a pas d'autre plan que l'Église. Il n'y a pas d'autre plan que la foi, il n'y a pas d'autre plan que l'amour de Dieu, il n'y a pas d'autre plan que l'espérance et la ferme espérance dans ce que Dieu a préparé pour nous. Que Dieu vous bénisse.